La Première, podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
La métropole internationale de Hong Kong compte plus de 7600 gratte-ciel qui font d'elle une très riche vitrine de l'architecture. 7 millions d'habitants, c'est donc un des territoires les plus densément peuplés au monde. Et cette forte concentration oblige la construction de bâtiments très très en hauteur et puis des bâtiments très très serrés, d'où le surnom de ville verticale. Dans Monumental, aujourd'hui, l'émission de la Radio Suisse, qui est notre partenaire, vous le savez, Joanne Ducey reçoit Thierry Sanjouan, qui est enseignant à l'Institut de géographie de Paris et l'auteur de nombreux ouvrages sur la Chine, dont « La Chine et le monde chinois », paru aux éditions Armand Collin. Thierry Sanjouan retrace l'histoire de cette ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine il n'y a pas si longtemps, c'était en 1997.
Quand débute l'histoire de Hong Kong ?
Elle débute essentiellement en 1842 avec le traité de Nankin, quand les Britanniques obtiennent la pleine propriété de l'île de Hong Kong. Il y a quelques villages à Ka, il n'y a pas grand monde. Il faut savoir que les Chinois traditionnellement tournent le dos à la mer et que finalement les espaces les plus côtiers, les plus littoraux, sont les espaces qui hier étaient des espaces délaissés. La capitale, la ville importante dans la région, c'était Canton, qui était au fond du delta. Ce qui a permis justement aux Britanniques de s'installer sur des terres qui étaient à la marge, qui n'étaient pas contrôlées par le pouvoir politique et qui leur ont permis de créer un comptoir supplémentaire d'une certaine manière à Hong Kong. Et puis dans le même temps, ils ouvraient d'ailleurs une concession étrangère à Shanghai.
Hong Kong était à l'époque la plaque tournante de l'opium ?
Pas forcément Hong Kong en tant que tel, puisque Hong Kong, avant 1842, n'existe pas en tant que tel. Mais nous sommes dans cette zone littorale, avec des baies très découpées, avec beaucoup d'îles, où vous pouviez avoir de la contrebande, où vous pouviez avoir même des pirates japonais. C'est pour ça que l'État chinois ne le contrôlait pas et ne le peuplait pas. Les commerçants britanniques, qui voulaient vendre donc de manière illégale de l'opium, avaient ainsi un arrière-plan par rapport à la ville de Canton qui était leur cible.
Cérémonie chargée d'émotions mais aussi de pluie pour la rétrocession de la colonie britannique à la Chine. Un chant plein de symboles pour tourner cette page d'histoire, ce n'est qu'un au revoir. Des paroles confirmées par le prince Charles, représentant de la couronne britannique à cette cérémonie. Les yeux du monde entier sont tournés vers Hong Kong aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une transition heureuse et un avenir de prospérité et de paix.
Archive INA, 1997.
Alors que les feux d'artifice étaient tirés dans le port de Hong Kong où est ancré le yacht Royal Britannia, un premier contingent de 500 soldats de l'armée populaire de libération chinoise, à bord de camionnettes, d'autocars et de véhicules militaires, franchissait la frontière entre Shenzhen et Hong Kong. Le gros des troupes, quelques 4000 hommes avec blindés légers, sont attendus la nuit prochaine dans l'ancienne colonie britannique.
On l'a dit donc, cette ville a été pendant longtemps une colonie britannique. Il y a eu à un moment donné une réunification, et pour cette réunification, on a mis en place le concept de un pays, deux systèmes. Oui. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors déjà, rétrocession, réunification, les choses sont compliquées parce que je vous rappelle qu'il y a une deuxième Chine qui s'appelle la République de Chine, qui est située à Taïwan, et les Britanniques ont décidé de rendre Hong Kong à la République populaire de Chine, dont la capitale est à Pékin. Une rétrocession, sauf que en 1842, le Hong Kong que l'on connaît n'existait absolument en rien, ni même d'ailleurs au tout début du XXe siècle. Alors, le système d'un pays de système, le principe d'un pays de système inventé par Deng Xiaoping, initialement avait été inventé pour Taïwan, dans l'idée d'une réunification où Taïwan reconnaîtrait la suzeraineté de Pékin. Ils n'ont pas pu le faire, ils l'ont utilisé pour Hong Kong et ils l'ont utilisé pour Macao. L'idée est que l'on est sur un même pouvoir politique, que Pékin a le pouvoir en termes des affaires étrangères, en termes de suzeraineté politique, en termes de défense, mais que les deux pays, la République populaire de Chine continentale et Hong Kong ont deux systèmes économiques différents et ce système est garanti à Hong Kong pendant 50 ans, donc jusqu'en 2047. En fait, finalement, en 2047, on peut penser qu'il n'y aura plus qu'un seul système parce que c'est la Chine qui bouge par rapport à Hong Kong, bien évidemment, et qui la rattrape dans ses réformes.
Quels sont les changements notables depuis la rétrocession ?
Les changements notables ne sont pas, en fait, me semble-t-il, si nombreux que cela. On est plus, me semble-t-il, dans une continuité. En termes d'espace, déjà, on continue à faire des terre-pleins, à aménager, à urbaniser. Ça fait belle lurette qu'il n'y a plus du tout d'espace agricole à Hong Kong. La rétrocession date de 1997. En 1998, on a ouvert l'aéroport de Chek Lap Kok sur le grand aéroport international sur l'île de Lantau, mais qui a été construit finalement par les Britanniques. En termes de logement, il y a eu là pour le coup quelques changements, puisque après la crise asiatique de 1997 et puis la baisse en fait, la récession économique qu'a connue Hong Kong dans un tout premier temps, mais qui n'était pas due à la rétrocession politique, les grands magnats de l'immobilier à Hong Kong ont obtenu que le logement social soit réduit, alors que l'essentiel, plus de la moitié de la population, du temps des Britanniques, était logé dans des logements sociaux ou bien dans des logements avec une subvention du gouvernement. En termes politiques, les choses ont changé dans la mesure où, bien évidemment, le chief executive, le chef de l'exécutif est nommé par Pékin. Il est choisi par Pékin. Peut-être que nous reviendrons sur cette question d'ailleurs qui est très épineuse. Et on a le sentiment qu'il y a eu plutôt de la part des médias, de la presse hongkongaise, plutôt une autocensure souvent par rapport à Pékin, plutôt qu'une véritable contrainte politique imposée par Pékin. Ils ont laissé faire d'une certaine manière tout en surveillant. Il est vrai qu'une bonne partie des médias et bien des choses à Hong Kong appartiennent à des milieux d'affaires et à des tycoons hongkongais qui, eux, font des affaires avec Pékin sur le continent, ce qui fait qu'ils ne poussent pas trop à la critique de la République populaire de Chine.
6 septembre 1997.
La grande marée médiatique qui avait submergé en juin 1997, lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, la maintenant défunte colonie britannique, s'est retirée aussi vite qu'elle était arrivée, laissant désert les rivages de la célèbre Perle d'Orient. Le dernier gouverneur britannique, Chris Patten, est à présent, comme il l'avait annoncé, en train de planter ses choux dans son jardin du sud de la France. Son palais au cœur de la cité demeure vide. Sa gigantesque Rolls noire, image autrefois familière des Hongkongais, ne traverse plus les embouteillages de la cité. Elle gît, abandonnée, au fond d'un garage comme une grande dame délaissée, attendant d'être vendue aux enchères à quelques milliardaires fétichistes, Hong Kong n'en manque pas, ou de passer les portes d'un musée de la colonie encore très hypothétique. Une époque est close, l'histoire a refermé ses portes, et Hong Kong, ville frénétique et agitée, vit comme toujours dans le présent. Seul un œil exercé pourrait distinguer les petits changements qui modifient le visage de la cité. Le plus évident, le drapeau rouge aux 5 étoiles qui flotte quelque peu incongru sur les gratte-ciels de la cité. Symbole de cette grande contradiction historique que Karl Marx, dans ses volumineux écrits, n'avait point prévu, le communisme coiffant, protégeant et élevant l'un des plus beaux fleurons du capitalisme mondial.
Aujourd'hui, quelles sont les relations entre Hong Kong et la Chine, ses anciens voisins ?
Alors, on peut le voir à plusieurs échelles, me semble-t-il. Première échelle, je pense, c'est la population hongkongaise, qui, dans les années 1980, quand les Britanniques ont lancé, d'une certaine manière, le processus de rétrocession, les Hongkongais, ils estimaient qu'ils étaient chinois, revenir sous une souveraineté chinoise, c'était tout à fait normal. Surtout, ils se définissaient comme chinois, en opposition aux Britanniques, aux colons britanniques. Et puis, ils connaissent les événements du 4 juin 1989, place Tiananmen à Pékin. Et ça, c'est un véritable traumatisme pour Hong Kong. Parce qu'ils comprennent à qui ils vont revenir en termes politiques 8 ans plus tard, en 1997. Il va y avoir par ailleurs, notamment avec le gouverneur Chris Patten, dernier gouverneur britannique de Hong Kong, une démocratisation de la vie politique hongkongaise avec des partis qui défendent la démocratie, les droits de l'homme, qui s'opposent ainsi à Pékin. Et puis parallèlement, vous allez avoir des partis qui sont pro-chinois, qui se disent pro-chinois et pro-Pékin d'une certaine manière. Donc là, on est dans des logiques d'opposition. N'oublions pas que le 4 juin, chaque année, c'est à Hong Kong que des milliers de Hongkongais descendent dans la rue pour se souvenir des événements de Tiananmen. C'est véritablement un traumatisme, parce que pour eux, aujourd'hui, il faut se définir comme chinois par rapport non plus aux Britanniques, mais par rapport aux Chinois du continent. Et puis, il y a la question de la nomination, justement, du responsable de Hong Kong. Pékin a promis qu'en 2017, il y aura une élection au suffrage universel du principal homme politique de Hong Kong. Or, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est certes, il y aura un suffrage universel, mais il va y avoir une commission spéciale qui va choisir deux ou trois candidats qui pourront candidater à cette élection. Et là, nous avons eu de très très fortes oppositions d'une partie de la population de Hong Kong. Il faut voir que la population de Hong Kong, pour partie, sont souvent ça peut être des cadres supérieurs, des employés. Ils ont eu toute leur formation en langue anglaise, hein, depuis l'école primaire. Tout est en anglais. Ils ont souvent été à l'université. Il y a eu une démultiplication des universités à Hong Kong depuis les années 1960-1970. Ils ont pu, pour ceux qui ont le mieux réussi, pu faire des études en Angleterre ou bien aux États-Unis. Et ils ont un tout autre horizon, ils ont de tout autres aspirations, si vous voulez, que la population chinoise, je dirais, des villes du continent, qui les met en totale opposition, d'une certaine manière, avec un pouvoir qui serait contraignant, autoritaire, voire dictatorial.
Il est 6h30, Hong Kong s'éveille. Hong Kong. 7 millions de personnes vivent sur cette petite île et les territoires adjacents. Et plus de 95% d'entre eux sont chinois. Les Guailo, qu'on peut traduire par fantôme ou diable, sont les étrangers. Et ils ne représentent qu'une partie à peine visible de la population.
Il faut voir que c'est un territoire qui n'est pas très très étendu, puisque c'est 1100 km², que c'est un espace extrêmement morcelé, que c'est un espace morcelé d'abord parce que c'est des îles, pour beaucoup, morcelé parce que c'est des collines, morcelé parce que beaucoup, c'est des espaces en pente, avec des problèmes de glissement de terrain. Nous sommes aussi en Asie tropicale, avec des typhons, en fait, qui provoquent des inondations et qui fragilisent les milieux. Ainsi, nous avons à peu près simplement 20% du territoire qui est véritablement habitable par l'homme. Or, nous avons 7 millions d'habitants, ce qui fait une moyenne de 6400 habitants au kilomètre carré. Mais on peut trouver à Kowloon, au niveau du quartier de Mong Kok, des densités qui sont de 120, 130 000, 150 000 habitants au kilomètre carré.
Un bout de terre chinois posé sur la mer, où plus de 6000 gratte-ciel viennent assombrir le ciel. Voici Hong Kong. Cette ville ressemble à un assemblage de jouets pour enfants, où chaque forme représenterait un cube posé à côté d'un autre. La densité ici est l'une des plus élevées au monde.
On l'a dit depuis tout à l'heure, l'île de Hong Kong est petite, c'est pour ça qu'on construit de manière verticale. Et aujourd'hui, on compte plus de 7600 gratte-ciel.
Oui, oui, bien sûr, ils sont d'une égale beauté d'ailleurs. Les plus impressionnants sont certainement ceux qui sont d'abord sur l'île de Hong Kong, la Banque de Chine qui est bien connue et qui a été dessinée par l'architecte chinois Pei, enfin sino-américain Pei. La banque HSBC qui est en rez-de-chaussée vide, avec juste deux grands lions qui accueillent les visiteurs et qui après est dessinée en forme de cintre superposés les uns aux autres. Et puis vous avez plus d'une dizaine d'années le Central Plaza également, Et ils ont construit dernièrement, sur justement des terre-pleins qu'ils ont constitués, le Two International Finance Center, qui a été dessiné par l'architecte argentin César Pelli et qui fait 415 mètres. Et puis maintenant, de l'autre côté de Kowloon, vous avez aussi des tours qui sont impressionnantes. Le grand hôtel connu mondialement, l'hôtel Peninsula, on a créé une gigantesque tour par-dessus l'hôtel du début du XXe siècle. Et puis, un tout petit peu plus au nord, on a créé, dans un quartier résidentiel constitué uniquement de tours, l'Union Square, on a créé l'International Commerce Center, ça va l'ICC en 2010, qui fait 118 étages et qui a 484 mètres. Il abrite un hôtel de luxe, le Ritz-Carlton, et beaucoup de bureaux. Ce qui m'a le plus impressionné à Hong Kong, notamment les premières fois où j'y suis allé, c'est son caractère d'extraterritorialité. Nous sommes dans un carrefour international. Nous sommes dans un lieu, c'était vrai il y a 20 ans, ça l'est encore aujourd'hui, même si c'est moindre, un lieu où il y avait des China Watchers, à savoir des gens qui observaient la Chine continentale et essayaient de décrypter ce qui pouvait se passer sur le continent. On était dans un poste d'observatoire, dans une ville extrêmement dense qui circulait en permanence, pas du tout faite pour le piéton. Et quand on allait aux limites de cette ville, finalement, on trouvait des collines, des montagnes, des parcs naturels. Et puis la Chine continentale, c'était très, 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 très loin. C'était un autre monde. C'est cet aspect de insulaire, en fait, d'une certaine manière, même si le territoire n'est pas une île en tant que telle, c'est fait de territoires continentaux et de différentes îles, mais on est dans un pôle quand même qui fonctionne à une échelle internationale avant de fonctionner à une échelle régionale. Je pense que c'est ça qui me frappe le plus.
Mais on sent qu'on est quand même en Chine.
Il y a 25 ans, je vous aurais dit non. Il y a 25 ans, ça n'avait absolument rien à voir. Au fond, on était plus proche du monde des Chinatowns, des Chinois d'outre-mer, que de la Chine du continent. Aujourd'hui, les choses ont changé. D'abord parce qu'il y a des continentaux à Hong Kong. Hein, depuis 1997, il y aurait 500 000 continentaux qui seraient venus résider à Hong Kong. Parce que hier, on parlait où l'anglais ? Et souvent, la population ordinaire de Hong Kong ne parlait pas l'anglais, parlait cantonais. Donc, le mandarin était inutile. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut parler mandarin. De plus en plus de Hongkongais apprennent le mandarin. Et puis, la ville aujourd'hui respire de plus en plus, même au quotidien, avec la zone économique spéciale à côté, la ville de Shenzhen. Vous avez des Hongkongais qui habitent Shenzhen parce que c'est moins cher. Ils vont travailler à Hong Kong tous les jours. Ou bien vous avez, je l'ai vu, hein, des personnes âgées de Hong Kong qui vont faire leurs courses en Chine continentale à Shenzhen et puis qui reviennent avec leurs courses dans la journée. Donc, vous voyez, on est dans une osmose progressive avec la Chine continentale proche, qui n'était pas du tout le cas il y a 25 ans.
Voilà, Thierry Sanjouan, enseignant à l'Institut de géographie de Paris, auteur d'ouvrages sur la Chine, dont La Chine et le monde chinois, chez Armand Collin, au micro de Johan Ducey. C'était l'émission monumentale de notre partenaire, la radio-télévision suisse.